France Inter. La dernière fois que je suis retournée à Birkenau, c'était au printemps. Les champs se couvraient de fleurs, l'herbe était verte, le ciel limpide. On pouvait entendre les oiseaux chanter. C'était beau. Comment puis-je employer un mot pareil ? Et pourtant, je l'ai dit ce mot, je l'ai pensé. C'est beau. Au loin, j'ai vu cette silhouette qui remontait le long de la prairie. D'abord, je n'y ai pas cru, je me suis dit « ce n'est pas possible ». Mais c'était bien ça. Une joggeuse, elle faisait son footing ici, sur cette terre grasse et méconnaissable qui avait vu tant de morts. Dans cette terre qui sentait le petit matin frais, la rosée, elle courait tranquillement. J'en ai eu le souffle coupé. J'ai eu envie de hurler et de lui crier « Es-tu folle ?» Ce soir, l'heure bleue chez et avec Ginette Kolinka, à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Retour à Birkenau ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec un autre monde de téléphone.
Je rêvais d'un autre monde,
téléphone, c'est une histoire de famille, Ginette.
Eh ben, naturellement.
Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Ben, pourquoi ? Parce que j'ai un fils qui, le hasard a voulu que, il n'était pas du tout musicien. C'est vraiment le hasard. La vie est faite que de hasard, dans le fond. Il s'est arrêté au sol d'hiver où il y avait Antoine qui jouait. Et puis de là est parti, il a connu un copain qui était avec ses copains d'école. Et ce copain connaissait quelqu'un. Et puis voilà, ils ont gagné c'était le concours, je crois, au golfe de Rouault. Et puis de là, c'était pas encore avec le groupe Téléphone, hein. C'était pas leur groupe. Et puis petit à petit, ils se sont retrouvés. Mais exactement, le fin bout de l'histoire, je le connais pas tellement. Mais je sais que c'est un peu ce genre-là.
Mais vous l'avez laissé faire, vous l'avez laissé devenir comme, musicien.
Je ne sais pas si vous avez des enfants.
Si.
Eh bien alors, comme vous arrivez-vous à faire quelque chose avec eux? Moi, je voulais qu'ils soient à la Sécurité sociale, fonctionnaires, une petite paye. Je savais bien qu'ils ne seraient jamais docteur ou avocat. Ils n'aimaient pas les études. Mais je voulais.
Grand musicien, c'est pas mal.
Mais
hein.
Je ne savais pas qu'il allait devenir un grand musicien. Dans la famille, dans le fond, je dis on a de la chance. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance.
Chance, oui, chance.
Il y a eu une malchance, une période de malchance qui a coûté cher à beaucoup de ma famille. Mais personnellement, moi, cette malchance, ça s'est terminé en chance.
Vous avez attendu de très nombreuses années pour délivrer votre mémoire et pour nous restituer les conditions de votre arrestation dans cette ville d'Avignon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite votre passage dans les camps, puis ensuite votre arrivée à Birkenau. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps, Ginette ?
Mais j'aurais même dû attendre encore plus longtemps, je ne voulais pas en parler. J'avais eu la chance d'en revenir, et pour moi, c'était, c'est pas dire ne plus en penser. Il n'est pas possible d'effacer des choses comme ça, mais pas en parler. Et je ne voulais pas en parler. C'est le hasard qui a voulu que je recommence à parler de ça pour rendre service au président de mon association. Mon association, c'est l'Union des déportés d'Auschwitz. Il emmenait des témoins avec des élèves régulièrement dans le camp de Birkenau-Auschwitz. Et puis, il y en a une qui est tombée malade et je l'ai remplacée. Je l'ai remplacée pour rendre service.
Et ça, c'était 40 ans après la déportation.
Oh, 55 ans après, oui, c'est pas 40 ans. Ah ben tiens, justement, je l'ai appris, là. Je disais 94, je crois que c'était avec un groupe de Rohan, ça je ne me rappelais plus.
C'est-à-dire que vous avez attendu si longtemps pour pouvoir commencer à parler de l'expérience que vous avez traversée à travers votre désir de transmission vers les plus jeunes.
C'est même pas tout ça. J'ai accompagné un groupe simplement sans arrière-pensée, parler aux jeunes, pas aux jeunes. J'accompagnais quelqu'un qui est un groupe de Rohan dans le camp. Et mon neveu qui était de Rohan a dit que sa tante était déportée. Du coup, j'ai été avec eux. Je ne me rappelais plus d'ailleurs que c'était là la première fois. Parler aux jeunes, ce n'était pas tellement mon ambition. Et je continue à parler aux jeunes sans être tellement sûr que ce que je veux faire passer passera.
Mais en même temps, si vous ne le dites pas, qu'est-ce qui passera ?
D'un autre côté, je suis très contente d'avoir dit oui la première fois parce que justement, les professeurs sont très demandeurs et les élèves, merci aux professeurs, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne parlerait pas.
Aujourd'hui, avec le recul du temps, en ce printemps 2019, comment considérez-vous cette attitude peut-être inconsciente au début, à cause de la douleur et de la souffrance, cette attitude de vous emprisonner dans ce silence pendant si longtemps, qui a été votre expérience à vous, mais qui n'a pas été seulement votre expérience. Dans beaucoup de familles juives, les rescapés, souvent, n'ont pas pu parler, peut-être parce qu'on voulait pas les entendre, ou peut-être parce qu'ils n'avaient pas envie de parler, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver les mots.
Personnellement, je n'ai jamais dit que ma famille ne voulait pas m'entendre. C'est moi, personnellement, qui ne voulais pas en parler. Je suis toute seule à être revenue de cet enfer. Et les autres, à part mon père et mon petit frère, qui, malheureusement, je sais, sont partis en fumée, les autres, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas comment ils sont morts. Par contre, je pourrais décrire les raisons, les causes de certaines morts. Et donc, si j'en parlais à ma famille, ça serait encore pire, moi, je trouve.
Et ce silence n'a pas été douloureux pour vous ?
Ah non. J'ai peut-être un caractère spécial. J'ai jamais eu envie d'en parler.
Et les gens que vous avez fréquentés à partir du moment où vous êtes revenu chez vous, à Paris, à partir du moment où vous avez recommencé votre vie, les gens que vous fréquentiez, aussi bien les amoureux que les amis, étaient au courant de ce que vous aviez enduré ?
Ah ben ça c'est sûr. Ne serait-ce que le numéro que j'ai sur le bras, même ceux qui ne veulent pas être au courant le deviennent. Je me rappelle vaguement, et pourquoi que je répondais ça, je suppose parce qu'on me posait des questions. À l'époque, je disais, si ça devait recommencer, et si j'ai un jour un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le voir supporter ce que j'ai supporté. Mais ça, je disais ça avant. Maintenant, j'estime que ce que j'espère, c'est que jamais, jamais, jamais des choses comme ça reviendront. Mais je ne ferai pas ce que j'ai dit.
À Richard, votre fils, qu'avez-vous dit ?
Non, rien. Rien pendant très, très longtemps. Rien.
Il a su quand qu'il était d'origine juive ?
Oh, il l'a su tard. Je me souviens toujours, il était revenu de l'école et d'un seul coup, il me dit « Alors, je suis juif, moi aussi ?» Ben oui, t'es juif. On est juif, mais pas pratiquant du tout. Non, j'éprouvais pas le besoin de lui dire que j'étais juive, juive ou pas juive.
Et de lui raconter la déportation, non ?
Ah non, non. Il l'a entendu quand il était tout petit, mon numéro sur le bras, ça l'avait intrigué. J'allais pas dire à un gamin de 4 ans, attends, je vais te raconter. Plus tard, tu sauras qu'il y a eu la guerre et il y a eu des choses qui ont été très dures. Puis c'est tout ça. Puis après, bon, il l'a pris par lui-même.
Et vous, quand avez-vous su que vous étiez d'origine juive, Ginette Colinka ?
Ah ben quand même, on n'était pas pratiquant, mais ma mère, elle nous faisait les plats. Non, j'ai toujours su que j'étais juive.
Mais comment vous le saviez ? On vous l'a dit ? Votre mère vous l'a dit ? Elle l'a énoncé ?
Non, on mangeait. Il y avait quand même les fêtes. Je savais que le jour de l'an juif n'était pas le jour de l'an des autres. C'est comme ça, je suppose. J'en sais rien, je vous dis ça comme ça, mais en réalité, je ne me rappelle pas. On habitait dans le Marais, la rue du Temple. On fréquentait. En fin de compte, je ne sais pas. Vous me posez une question là qui m'embarrasse. Je ne sais pas.
Vous étiez ce qu'on appelle des juifs assimilés, des citoyens français
peut-être
comme les
autres.
Peut-être
que pour des juifs. D'ailleurs, pour les juifs pratiquants, je ne suis pas juive. Hein. Moi, je me considère athée, mais ça n'existe pas chez les juifs. On est juif, on reste juif. Hein.
Oui, n'empêche que votre père, quand les lois juives ont été édictées en France, votre père a obéi au gouvernement de Vichy.
Naturellement, il ne pouvait pas faire autrement. Mais il aurait pu faire comme certains qui ont senti que ça allait aller mal. Ils ont quitté la France ou ils sont partis en zone libre. Mais mon père était tellement fier d'être français, d'avoir fait la guerre de 14, d'avoir que des enfants, des gendres qui faisaient la guerre de 39-40, nous, on sera protégés, nous, on risque rien. C'est un peu égoïste pour les étrangers, mais lui, il était très rassurant. Hein.
Donc vous avez porté l'étoile jaune ?
Oui, je l'ai portée. Et j'avoue franchement que je me suis jamais senti humiliée de la porter. Il faut le montrer, ben je le montre.
Et vous n'avez jamais été inquiétée durant ces mois-là à Paris ?
Jamais, jamais, jamais. Je me rappelle toujours, j'allais à l'école de stylodactylo rue Comartin. C'était la première fois que les camarades voyaient mon étoile. Ils ont fait comme si ils voyaient rien. Par contre, j'ai une cousine, ça n'a pas été le cas. Elle travaillait à l'Étoile, elle a remonté tous les Champs-Élysées avec un monsieur qui l'injuriait, retourne dans ton pays. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Personne, personne n'a dit à ce monsieur, laissez-la, fichez-lui la paix. Ils l'ont laissé injurier cette petite gamine qui avait 14-15 ans et sans rien dire.
Dans quelles conditions, Ginette Colinca, vous avez quitté Paris pour aller vivre à Avignon avec votre famille ?
Nous étions dénoncés comme communistes.
Par des voisins ? Vous savez
pas qui ? Non, il ne faut pas dire les voisins.
Dans votre livre, on sent que vous savez, mais vous ne voulez pas le dire.
Non, absolument pas. Alors là, je ne sais pas ce que je dis, en tous les cas, toutes les personnes qui dénonçaient, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient signé leur nom. Hein. Non. Mais on peut, c'est ça qu'on soupçonne tout le monde dans des cas comme ça. Et des pauvres gens qui n'ont rien à voir à être soupçonnés, et vous soupçonnez. Moi, j'ai soupçonné un tel, mais pas spécialement les voisins. Hein.
Toujours est-il que vous vous êtes senti, vous, votre père, votre mère, votre famille, vos frères, votre frère et vos sœurs, protégé parce que vous étiez parti à Avignon.
Ben oui, en zone libre, on ne s'était pas fait recenser comme normalement, peut-être, je ne sais pas exactement. En zone libre, on portait pas l'étoile, donc il fallait peut-être se faire recenser, mais ça, on l'a pas fait. On l'avait fait à Paris, on la bêtise, on ne l'a pas fait en zone libre. Il faut dire que, vous voyez comment je parle, le seul accent qu'on avait, c'était l'accent de Parigot. On n'a pas du tout un accent étranger. Alors, le type juif, comme décrivait Hitler, je l'ai cherché partout. J'étais influencée, moi aussi, par le type juif qu'il avait fait, la caricature d'un juif au cinéma Paramount, avec un nez tellement busqué.
Pourquoi on voyait ça dans les cinémas à Paris pendant l'occupation ?
Il y avait sur la façade du cinéma Paramount un grand portrait d'un juif, mais alors il lui avait fait un nez vraiment très très, comme on s'imagine. Et moi j'étais influencée par cette image. Là aussi. Et alors que je suis juive et que j'avais autour de moi des familles juives, et ben, quand j'étais dans l'autobus qui m'amenait de Drancy à la gare, je disais, ben, ils n'ont pas le type juif. Et maintenant, vous pouvez chercher, qu'est-ce que c'est que cette histoire de type juif ?
C'est sur un marché à Avignon que vous avez été arrêté. Pourquoi et comment ?
Non, ce n'est pas sur le marché qu'on a été arrêté. C'était à la maison. Moi, on faisait les marchés sur les remparts d'Avignon. Par un jeu de circonstances, je vais déjeuner à cette heure-là. Et à cette heure-là, la Gestapo était là. Il y avait en même temps mon père, mon petit frère et mon neveu qui étaient venus déjeuner parce qu'il n'y avait pas de cantine à l'époque. Et moi, je m'amène. Alors que ma sœur et ma cousine... On revenait. C'était l'heure, quoi. Voilà. Par contre, et ça, je n'ai jamais su le pourquoi. Ma mère, qui était malade au premier étage, je n'ai jamais demandé à mon père, quand on était ensemble, est-ce qu'ils sont montés et puis ils ont vu une femme malade, ils se sont dit, la vieille, on la laisse crever. Ou alors, ils ne sont pas montés, il y avait 4 personnes. C'était leur quota, ça suffisait. Je ne sais pas. J'ai jamais demandé. Et quand je suis rentrée et que j'ai eu la chance de retrouver ma mère, je ne lui ai non plus à elle jamais posé la question.
Ça a toujours été le silence entre vous.
C'était pas un silence. Pourquoi que j'ai pas posé la question, j'en sais rien. Mais ça m'embête. Ça m'embête. Mais bon.
De pas savoir la vérité.
Pas le savoir exactement.
Toujours est-il que votre mère a été sauvée, sans doute parce qu'elle était cachée dans le même immeuble que vous.
Elle n'était pas cachée.
Ils n'ont pas ouvert cette porte-là.
Elle était malade au premier étage. Alors, je ne sais pas si la Gestapo est montée et voyant une malade, ils ont dû... Alors qu'à Drancy, il y avait des gens qui arrivaient sur les civières. Hein. Mais bon, faut pas chercher, je cherche pas non plus. J'ai eu la bêtise de pas poser de questions, alors...
Et pendant que vous étiez en camp, à Birkenau, Ginette Colinka, vous pensiez que votre mère était vivante ?
Ah non, pas du tout. Avec mon père, dès qu'on a été ensemble en cellule à Avignon, on a pensé que maman, c'était la mort. On n'a pas pensé qu'elle allait se faire arrêter, on a pensé que pour elle, elle mourrait.
Alors, à travers ce livre de témoignages que vous publiez ces jours-ci, on s'aperçoit que on vous a rien dit à partir du moment où vous avez été arrêté à la prison d'Avignon, ensuite vous avez été ramené sur la région parisienne, mmh. ensuite il y a eu Drancy, mmh. et ensuite de Drancy le camp, vers le camp de Birkenau. Mais rien ne vous a été dit. Rien.
On savait. Tout le monde, tous les Juifs savaient que si on était Français, arrêté en France, on savait tous qu'on passait par Drancy, les prisons où on s'était arrêté, et Drancy. On le savait tous, ça, que les Français, c'était Drancy, et les étrangers, c'était Baume-la-Rolande et Petit-Pied. Tous les Juifs étaient au courant de ça. Mais, et après, pour aller dans un camp de travail. On allait dans un camp de travail. Et jamais j'ai eu peur. Plus jeune, costaud. Je remercie mon père, parce que mon père était plus intelligent que moi. Moi, dans le camp de Drancy, on voyait des personnes de tous les âges, de toutes les conditions, des estropiés, des vieillards et tout. J'aurais dû me poser des questions. Ils ne vont pas les faire travailler, ces gens-là. Mais moi, je croyais, les nazis disaient qu'on allait dans un camp de travail. Bon, ben, j'allais dans un camp de travail et je n'avais pas peur. Je suis jeune, costaud.
Et quand vous êtes arrivé dans le camp, vous avez été séparé de votre père et de votre frère.
Mais tout de suite.
Immédiatement, que vous n'avez plus jamais revu.
Et surtout que je savais que je les avais renvoyés à la mort. Ça, c'est,
pourquoi
c'est
vous bien. Dites-vous, dans le livre aussi, vous, on a l'impression que vous portez cette culpabilité-là.
Oui,
pourquoi ?
Parce que c'est moi qui leur ai dit de monter sur le camion Gilbert et papa. Ça, c'est moi. De toute façon, je sais que, automatiquement, un était trop jeune pour rentrer dans le camp, l'autre trop vieux. Les nazis savaient qu'ils prenaient les gens de telle date, de tel âge à tel âge. Mais pour moi, c'est moi qui ai dit à papa et à Gilbert de monter sur les camions. Et c'est vrai, tout en sachant que je ne suis pas fautive, vous savez, quand on se met quelque chose dans la tête, on a beau vous dire que c'est pas vrai, c'est t'as tort, ça fait rien.
Et à votre retour, vous avez pu parler à votre mère de cette séquence tragique ?
Comment voulez-vous dire des choses comme ça ? Maman, elle sait qu'ils sont partis en fumée. Là, je l'ai même dit assez, j'ai même dit même tellement brutalement que ça, après, j'ai eu du remords. Oui, ça, c'est vrai. Parce que moi, je lui ai dit tout de suite à un moment. Hein. Elle me dit, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert le lendemain matin, mais moi, je savais bien qu'on ne pouvait pas lui en donner. Donc, vous savez, je n'ai pas pris de gants pour lui annoncer qu'elle ne les verrait pas.
Là, nous avons la chance d'être avec vous, chez vous, à Paris, dans le 10e arrondissement, quand vous êtes rentré des camps et que vous êtes passé par l'hôtel Lutetia, on vous a posé beaucoup, beaucoup de questions, et ensuite vous avez pu rentrer. Vous êtes rentré où ? Ici, dans l'appartement où nous sommes aujourd'hui ?
Ici, oui. Ma mère habitait sur le même palier. Et mon père avait fait son atelier ici. C'était un appartement, ce qu'on appelle commercial. Une partie était habitation et l'autre partie, c'était l'atelier. Et puis après, mon père a pris un atelier ailleurs. Et du coup, c'est ma sœur aînée qui est venue s'installer ici et qui avait fait son appartement. Et donc, quand mes parents sont... C'était une chance aussi de récupérer l'appartement. Moi, j'ai appris que cet appartement était occupé par des collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui en avaient fait un bureau pour envoyer en Allemagne les travailleurs obligatoires. Donc c'est...
Le STO.
Par contre, j'ai jamais demandé à mes sœurs comment qu'est-ce qu'elles ont fait. Ce que je sais, c'est que ceux qui étaient collaborateurs ont fait de la prison et que du coup, tout ce qui était là, eh bien, ils ont racheté les meubles à ces personnes-là. C'est tout ce que je sais. J'ai jamais posé tellement de questions. L'appartement qu'on avait, quand on a quitté Paris, on n'est pas parti avec les meubles. Hein. On avait tout laissé, tout. Eh bien, l'appartement a été complètement vidé. Alors, nous, on était là-bas, mais ma sœur aînée, elle, c'était cette partie-là. Eh bien, tout a été vidé complètement. Par qui, j'avoue franchement que je ne sais pas. J'aurais pu demander, la concierge qu'on a retrouvée, elle était là avant notre départ. Donc j'aurais pu lui poser des questions. J'ai jamais posé de questions.
L'important, c'était de survivre.
Ben voilà, j'étais là, mes parents étaient là, parce que j'avais pas besoin de manger de détails. J'aurais dû, ça m'aurait intéressé.
Juste au-dessus de vous, Ginette, il y a une photo de famille. Pourriez-vous la décrire ?
Eh bien, tous ceux qui sont dessus, à part ma mère, et puis il y a une autre petite photo d'identité, c'est ma belle-mère. Tous les autres, c'est ceux qui ont été déportés et qui ne sont pas entrés. Mon père, mon frère, ma sœur aînée. Alors mon père, je sais comment qu'il est mort. Mon frère aussi. Ma sœur aînée, je ne sais pas. Mon neveu, je sais comment qu'il est mort. On a retrouvé des traces dans une fosse commune. Un petit patelin, je ne me rappelle plus du nom. Et des gens achètent du terrain pour construire. Ils tombent sur une fosse commune où il y avait des cadavres de jeunes tués d'une balle dans la tête. Et je savais que mon neveu, pareil, par un historien qui m'avait envoyé un petit calepin où il y avait des dessins, on voyait que autour d'une table, en janvier 45, il y avait marqué « Bonne année 45 », on voyait des jeunes à table. Et donc, en janvier 45, il était vivant. Comme il n'est pas rentré, moi j'ai pensé qu'il avait fait la marche de la mort et qu'il était mort pendant cette marche. En fin de compte, il n'a pas fait la marche de la mort. Il a été assassiné par balle. Alors certainement, quand les nazis ont senti que ça allait mal, ils ont dû les assassiner.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Ginette Kolinka, la Yiddish Mama de Charles Aznavour.
Oui, ça...
La Yiddish Mama, tendre force de la nature. La Yiddish Mama, c'est de l'amour à l'état pur. Prête pour ses enfants à faire bien des sacrifices. Veillant, bon an, mal an, sur leur chagrin, sur leur caprice. Aussi forte face au drame, mais très faible avec ses petits. Dans l'eau, les flammes, pour eux, elle jouerait sa vie. Ah mon Dieu, qu'aurais-je fait de bien, dis-moi, sans la chaleur, sans la forte foi en moi, sans l'amour de ma Yiddish mama, mama. La Yiddish mama, gardienne de la tradition. La Yiddish mama, c'est le trésor de la maison. Dès notre premier cri, elle organise et le décide. Tout au long de sa vie, elle nous couve mais nous guide. Aussi, elle est la lumière qui luit quand on se sent perdu. Elle est la prière que l'on dit quand elle n'est plus. Moi je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je garderai gravé en moi pour toujours tout l'amour de ma vie.
Vous êtes une Yiddish et Mama ?
Oh non, pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout. Pas du tout. Ni mère poule. Non, non, j'ai jamais été ça. Mais c'est vrai que les mamans juives, elles ont une réputation d'être mère poule. Non, non, moi je l'ai jamais été.
Alors dans votre livre qui vient de sortir ces jours-ci et qui d'ailleurs obtient déjà un vif succès, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour la mémoire de nos contemporains, parce que ça intéresse le grand public, votre histoire, qui est aussi notre histoire, puisque si vous la racontez pas, ça peut pas être notre histoire.
Et c'est l'histoire des déportés, de tous les déportés. Hein.
Alors, vous nous racontez que quand vous arrivez dans le camp, dans la section des femmes et des jeunes femmes, eh bien, vous allez trouver beaucoup de camaraderie avec vos sœurs déportées, et il y en a une que vous appelez Simone, j'imagine qu'il s'agit de notre Simone.
Oui.
Simone Veil.
Oui, oui. Simone, c'est une... Vous savez, camaraderie, je suis pas tout à fait d'accord sur ce terme. Moi, peut-être, hein. Mais justement, je ne me suis pas tellement liée d'amitié avec dans les camps. Je me suis liée d'amitié quand on était en prison, ou à Drancy. Mais dans le camp, j'ai même remarqué, il n'y a pas tellement longtemps, qu'en dormant dans la même koya, tous ensemble, je ne me rappelle même pas les personnes avec qui je dormais. Il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte de ça.
Vous voulez dire que c'est votre mémoire qui a effacé les contours de cette expérience ?
Je ne sais pas ce que je veux dire. Je constate que je ne m'en rappelle plus. Je ne me pose pas toujours des questions à me demander le pourquoi des choses. C'est comme ça. Pourquoi que jusque-là, jamais j'ai pensé à ça. Et maintenant, il y a quelque temps, j'ai remarqué que je ne me rappelais pas des gens avec qui je couchais pendant des mois.
Ben parce que c'était la survie chaque jour, et chaque soir, et chaque matin.
Je ne sais pas, je n'irai pas voir un psy, lui trouverait certainement des explications à ça. Est-ce que nos cerveaux, moi je pense plutôt que nos cerveaux étaient tellement vides du fait qu'il manquait de nourriture. Hein. Je ne pensais pas. Et peut-être que c'est ça qui m'a sauvée. Comment voulez-vous penser dans des endroits comme ça ?
Ben vous pensiez quand même, et vous le racontez magnifiquement, Ginette Colinca, vous pensiez quand même à économiser vos forces, à mettre de côté le minuscule quignon de pain qu'on vous donnait pour pouvoir en avoir encore un peu le lendemain et le surlendemain.
Je me rappelle de ça, que même on me le souvent. Je me réveillais le matin, puis je l'avais plus, parce que quelqu'un avait vu que je... Et puis voilà, je dis même pas que c'est ma voisine qui couchait avec moi qui le prenait. D'ailleurs, je pense même pas que c'était les voisines qui faisaient ça. C'était celles qui voyaient de loin. Je crois pas possible, et encore, on sait pas la fin, que quelqu'un dans la koya aurait on dit pas voler, hein, on dit organiser, aurait osé organiser sa compagne. Je le crois pas, mais bon.
Vous évoquez aussi le statut des musulmanes, c'est ainsi que vous les appelez.
Non, ça c'est un peu spécial.
Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, justement, j'en parlais beaucoup et maintenant je commence à moins en parler parce que musulmane ne désignait pas une religion. Musulmane désignait des personnes squelettiques, très, très, très magres. Mais alors, musulmane, man, c'est humain, peut-être, et puis malade. Et c'est devenu dans les camps musulmane. Mais musulmane, ce n'était pas la religion dont on parlait. On parlait de la personne qui était de la silhouette, de son aspect. Et maintenant, avec la religion musulmane, des juifs qui racontent que les musulmanes, on les gazait, on les brûlait, ça prête à confusion. J'ai beau dire, répéter, ce n'est pas la religion. C'est... Alors maintenant, je préfère ne plus en parler. Mais les déportés, quand on parlait musulmane, voyaient la silhouette d'une personne très, très, très maigre.
Vous pesiez combien de kilos quand vous êtes sorti du camp à la Libération ?
Quand je suis rentrée ici, alors que j'étais soignée pendant un mois à Theresienstadt parce que j'étais malade, eh ben je pesais 26 kilos. Maintenant, je veux maigrir, j'arrive pas, j'ai le régime pour le faire.
Mais pourquoi vous voulez maigrir ?
On se trouve toujours trop grosse. Mais enfin, je veux maigrir, mais je me prive pas quand même. Vous voyez, vous avez les chocolats qui sont... Vous pouvez en prendre.
Quand vous étiez à l'intérieur du camp et que vous voyiez la fumée des usines, vous pensiez quoi ?
Je voyais la fumée des usines en pensant que c'était... Moi, je pensais que c'était... Je savais que j'allais dans un camp de travail. Pour moi, un camp de travail, c'est quelque chose de dur. Des travaux durs. Et pour moi, les travaux durs, moi qui faisais que ou vendeuse ou travail de bureau... Un travail dur, c'était l'usine ou les champs. Et je n'avais pas peur. Je suis jeune, je suis costaud. J'ai 19 ans, je peux travailler en usine, je peux travailler dans les champs. Et quand on est arrivé, puis qu'on a vu cette usine, ces fumées, cette odeur et tout, je pensais que c'était une usine de produits. Je ne sais pas ce qu'on peut travailler dans une usine, mais enfin, c'était une usine. Mais c'était l'usine, mais l'usine de la mort. Mais ça, je ne le savais pas.
Et en fait, ce qu'on peut comprendre peut-être à travers votre livre, Ginette Colinca, c'est qu'en 55 ans plus tard, vous avez accepté d'accompagner des personnes pour la visite à Birkenau et à Auschwitz, que vous avez compris ce qui se passait pour les autres. À un moment, vous accompagnez donc des personnes qui viennent visiter le camp.
Oui.
Et puis, il y a une guide d'origine polonaise qui explique aux personnes, bien voilà, quand les déportés arrivaient dans le camp de Auschwitz, on leur enlevait leurs vêtements, on leur inscrivait...
Oui, le tatouage, pas si haut, hein, là. Mais oui, d'accord. Non, mais ce que j'ai surtout réalisé quand je suis rentrée la première fois et que j'ai entendu la guide polonaise, c'était quand on était devant la reproduction, comment qu'on dit, d'une chambre à gaz. Pour moi, mon père, je l'avais envoyé à la mort, mais au moins, en 3-4 minutes, par le fait d'un côté... Je la voyais là-bas, mais d'un autre côté, je lui ai épargné peut-être des souffrances. Il aurait pu, par exemple, mourir au bout de 3-4 mois, et puis il aurait souffert pendant ces 3-4 mois. Donc là, en 3 minutes, pour moi, on rentre dans une... Vous savez, on n'a jamais eu de détails. Les détails des chambres à gaz, on les a eus quand on est rentré dans le camp. On savait chambre à gaz, et puis c'était tout. Donc, pour moi, dans ma petite tête, on rentrait dans la chambre à gaz... 3-4 minutes, et puis on était asphyxiés, Et puis après, bon, bah, c'était votre corps qu'on on le savait. On savait que les corps des gens qui étaient dans la chambre à gaz étaient brûlés. On n'a pas su tout de suite qu'on leur enlevait leurs cheveux, qu'on leur vendait. Non, ça, on ne l'a pas su. On l'a su au retour. Hein. Vous savez, tous ceux qui travaillaient autour de ces chambres à gaz étaient parqués. C'était vraiment un endroit interdit. On ne s'approchait pas. Donc, on ne savait rien. On a su au retour les détails. Mais sur nous, on ne savait pas.
Et qui vous a dit au retour ?
Et alors là, justement, cette fameuse guide qui dit que la mort est rapide, 20-25 minutes, mais ça m'a semblé affreux. Parce que moi, je disais 3-4 minutes. Et elle dit 25 minutes. Et du coup, je me suis imaginé... C'est vrai que c'est relatif, hein, le temps. Quand vous avez un travail, 25 minutes, vous avez à peine commencé que déjà les 25 minutes sont passées. Mais quand on attend, 25 minutes, c'est long. Mais là, quand on lutte contre la mort, ça a dû être terrible. Et j'ai eu l'occasion, justement, d'entendre, bien longtemps après, un monsieur qui travaillait. Le Sonderkommando. Sonderkommando, c'est ceux qui s'occupaient de ce triste travail. Et ce monsieur expliquait comment il trouvait, quand il rentrait dans les chambres à gaz, quand c'était terminé, comment il trouvait les gens et comment il trouvait l'état de ces chambres à gaz. Alors là, je peux vous dire que certainement que ce n'était pas des... 20-25 minutes, ça devait être affreux. Je préfère ne pas trop préciser et remettre m'attarder là-dedans.
Simone Veil, dans ses mémoires, raconte comment, quand elle est revenue à Paris, quand elle a commencé à revoir des personnes, elle a ressenti une sorte d'indifférence à son sort. D'ailleurs, personne n'avait vraiment envie d'entendre ce qu'elle pouvait en dire. Vous avez eu la chance, Ginette Colinca, de pouvoir retrouver votre mère et vos sœurs. Avez-vous ressenti cette même indifférence quand vous êtes revenue après la libération ?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais absolument pas. C'est moi qui... On m'a pas posé de questions. Moi-même, on m'aurait posé des questions. J'aurais pas répondu parce que je ne voulais pas en parler. Ma mère, mes ont perdu leur père, leur frère, leur neveu, leur mari. J'ai une sœur aussi qui a perdu son mari. Et moi, je vais donner des détails. Non, ils savent qu'ils sont morts. C'est déjà pas mal. Ça s'arrêtera là. Mais c'est tout. C'est pas parce que on va pas me croire ou on va me croire. Je me suis jamais dit tout ça. Mais aussi parce que je cherche pas non plus des explications à tout. Hein. Moi, je savais que je ne dirais rien le jour où, dans le camp, j'ai appris que j'étais libérée, même j'étais malade, mais je savais que je ne dirais rien.
Déjà dans le camp ?
J'étais encore à Theresienstadt, où j'étais soignée parce que j'avais le typhus. Le jour où je suis rentrée à Theresienstadt et que... on est rentré dans un camp qui venait d'être libéré par les Russes, je savais que je ne raconterais rien. Parce que je ne voulais pas embêter les gens avec mon histoire.
Embêter ?
Oui, je ne voulais pas embêter les gens à raconter toujours la même chose. J'ai été déporté, on a fait ci, on nous a fait ça, et puis j'ai pas eu ci, puis j'ai pas eu ça. Non, je ne voulais pas ennuyer les gens avec mon histoire.
Ben aujourd'hui, il y a ce livre.
Ben maintenant, le livre, c'est exactement ce que je raconte dans les établissements. C'est
vous y allez toujours dans les écoles ?
École, lycée, oui, collège.
Et à chaque fois, vous êtes reçu et accueilli.
On est très, très, très bien reçu, très bien accueilli. Les professeurs sont extra et les élèves aussi. Alors, les élèves... Est-ce que ça va leur servir de leçon ? Est-ce qu'ils vont accepter leurs copains qui sont noirs, leurs copains qui sont juifs, leurs copains qui sont musulmans ? Ça, c'est autre chose. C'est ce que j'espère. Mais je pense que en tant qu'enfant, élève, ils le font. Et c'est quand ils deviennent adultes. que ça change. Je pense que c'est... Parce que vous savez, dans les classes, dans certains établissements, vraiment, ils sont très, très mélangés. Et je demande souvent aux professeurs, est-ce que les Noirs sont tous ensemble? Est-ce que les Juifs tous ensemble? Et puis les Musulmans tous ensemble? Non, non, dans la cour, ils s'accordent tous. Alors, à quel moment ils deviennent racistes et antisémites? Moi, je pense que quand ils viennent adultes.
Et comment vous avez réagi aux derniers résultats des élections européennes quand vous constatez qu'il y a une montée des populismes?
Eh bien oui, ça fait peur. Ça fait très très peur. Je ne veux pas m'occuper de politique quand je discute, quand je donne... C'est ma vie, je n'ai pas à parler politique. Mais c'est vrai, j'ai très peur. J'ai peur, parce que c'est dans tous les pays.
Il paraît que vous faites du sport, c'est vrai?
Ah ben oui, on va du sport. La gym. Mais c'est vrai aussi que je ne refais plus. Et alors là, vraiment, c'est vraiment là que ça m'ennuie de faire ce que je fais. Parce que c'est trop. Tous les jours, je suis ailleurs. C'est agréable.
Vous voulez dire que le livre, il vous prend trop de temps, quoi. Vous êtes devenu une star.
Le livre, c'est ce que je fais qui me prend du temps. Le livre, c'est un détail. Le livre, cette jeune journaliste qui est vraiment très mignonne m'avait interrogée pour
Marion Ruggieri.
Voilà, elle m'avait interrogée pour un journal. Elle avait fait un article qui était d'ailleurs très, très, très bien. Et alors, il y a un an, en début de saison, là, elle me demande, j'ai des signes, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Alors, ça veut dire, elle a des renseignements encore. Il me reste encore des signes. Est-ce que j'aimerais bien refaire un livre sur votre histoire? Ben, allez-y, pourquoi pas. Mais... Vraiment.
Vous êtes trop prise par quoi alors? Quelle est votre vie quotidienne aujourd'hui?
Par les voyages. Mais tous les jours, je suis ailleurs. Je vais de l'Est en Est. J'étais à Tourcoing lundi. Hier, je reviens de. Je ne sais même plus, de Berck. Demain matin, je m'en vais en Bretagne. C'est agréable, hein, remarquez que je ne me plains pas. Mais du coup, ma vie privée, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ben, je ne les vois pas. Je ne vois plus mes amis. Et ce qui me manque le plus, vous voyez, je vais vous dire vraiment, c'est la gym. À l'âge où j'ai, c'est maintenant que je devrais bouger.
Ah ben voilà, le téléphone qui sonne sans arrêt.
Ça, c'est pas vrai.
Mais écoutez, c'est la fin de l'émission, hélas. Alors je vais lire vos dernières phrases. Si aujourd'hui, à 94 ans, je suis comme je suis, je le dois à ces voyages, aux sentiments et aux élèves qui vont nous remplacer quand nous ne serons plus là. Merci à eux. Moi, je vous dis merci, Ginette.
Eh ben moi aussi, je vous dis merci. Hein. Mais c'est exact, c'est ça. Mais ce qui me prive, c'est ça. Ce que je fais, c'est... Si vous voyez comment je suis reçue, d'ailleurs un peu trop, ben oui, je ne suis rien du tout. Je suis quelqu'un qui a de la chance. Ils me considèrent comme une héroïne. J'ai rien fait. J'ai rien fait pour être arrêtée. Je suis juive et on m'a arrêtée parce que j'étais juive. Je ne suis pas une héroïne. J'ai simplement la chance d'avoir résisté, alors que malheureusement, il y en a tellement, tellement, tellement qui n'ont pas résisté. Et là encore maintenant, pourquoi moi? Alors que j'ai tellement de camarades qui font la même chose que moi. Vous savez que ça me gêne, ça. Moi, je vais me faire mal voir par mes copines. Elles vont dire, moi aussi je fais comme elles. D'abord, je vais vous dire, beaucoup me félicitent, me téléphonent, on t'a vu, t'étais comme ci, t'étais comme ça, mais les copines, je les comprends aussi. Ben, en tous les cas, je vous remercie.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Alors, on est quitte.
Rires.
C'est étrange, c'est ahurissant, enfin, comme tu changes. Du jour au lendemain, ton cœur change. Un jour près, un jour loin, la distance. Et puis est présent que le venant. L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien. C'est étrange, on parle et ne sert à rien, même un ange n'y comprendrait foutre rien.
C'est avec « C'était étrange » de Stéphane Escher que nous nous quittons. Merci encore Ginette. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous, comme chaque vendredi, avec Didier Varro pour « Foule sentimentale ».